Ce dossier, donc, dans la presse, intitulé « Des soins reportés, des vies écourtées » par Ariane Lacourcière, Caroline Touzin et Émilie Bilodeau. On va parler avec le président des médecins hématologues, oncologues du Québec dans un instant. Mais d'abord, je vais aller rejoindre Roxane Lavoie. Elle est justement dans ce reportage, c'est un des personnages. Elle est atteinte d'un cancer du sein. Bonjour, Madame Lavoie.
Bonjour.
Merci d'abord de prendre un moment pour nous parler. Je sais très bien que c'est pas facile. Racontez-nous un petit peu d'abord comment vous avez été diagnostiqué. Là, c'est arrivé vraiment, c'est arrivé de nulle part, ce cancer du sein, là.
Oui, on s'attendait vraiment pas à ça. C'est arrivé rapidement. En fait, c'est un cancer du sein. On l'a diagnostiqué, j'avais un cancer du sein de stade 4, métastasique. J'ai des métastases dans les os. C'est un cancer qui était très avancé aussi. Et c'est assez difficile à gérer tout ça. On a des enfants et tout. Et puis, c'est ça. De toute façon, ça fait quelques années que je fais des traitements. Ça fait 4 ans.
Oui.
On m'a donné une espérance de vie d'environ 5 ans. Depuis le mois de mars, j'ai eu pratiquement pas de suivi médical, en fait, aucun. J'ai eu 2 appels téléphoniques de mon médecin.
Ça, c'est clairement, Roxane, à cause de la COVID. C'est-à-dire qu'il y avait des gens...
Oui, en fait, il n'y a plus aucun suivi en oncologie à cause de la COVID. Il n'y a plus de rendez-vous en clinique externe. Il n'y a plus de suivi avec les médecins. Les simplement qui donnent les traitements en cours, ceux qui font de la chimio, peuvent continuer à la faire seuls, non accompagnés. Mais il n'y a plus aucun autre rendez-vous qui se donne en oncologie. Donc, depuis le mois de mars, j'ai eu 2 appels téléphoniques. C'est pas du tout la même chose. Au mois de décembre, quand mon médecin m'a appelé, on m'a rentré à l'hôpital pour de la gestion de la douleur, parce que j'ai des grosses douleurs. Puis finalement, on a découvert que j'avais une métastase au cerveau, par hasard.
Une métastase au cerveau?
Oui, mon cancer du sein s'est promené jusqu'au cerveau. Oui. Mon médecin dit que ça prouve à quel point qu'il est agressif. On m'a traité, j'ai fait de la radiothérapie. Et puis, je devrais avoir un appel de mon médecin le 18 février, en FaceTime, cette fois-ci.
Et vous avez dit dans l'entrevue que vous avez donnée aux journalistes de la presse que s'il y avait eu un suivi, comme il y en avait un avant la COVID, peut-être dites-vous qu'ils auraient détecté la masse au cerveau plus tôt.
Oui. Bien, c'est sûr qu'avoir eu un suivi, j'aurais probablement moins de douleurs. Ça serait plus facile probablement aussi de... Tu sais, c'est difficile pour le médecin d'évaluer la situation par téléphone. Puis tu sais, je comprends que c'est pas de sa faute non plus. Je comprends que c'est des directives précises qu'ils ont. Mais en même temps, je me dis, nous, on est malades quand même, COVID, pas COVID. Puis c'est difficile à gérer tout ça. C'est déjà difficile d'avoir le cancer, puis de passer à travers ça seul, c'est encore plus difficile. Et on n'a pas d'accès à nos médecins, on n'a pas d'accès à des soins. Mon médecin, j'ai pas de prise de sang régulière comme j'avais avant. Il y a beaucoup de choses, comme on a arrêté la chimiothérapie en pilule parce qu'il y avait un problème dans mon sang. On a découvert ça aussi à l'hôpital. Fait que là, j'attends que le médecin me rappelle là, pour voir quand est-ce qu'on reprend le traitement. Là.
Est-ce que vous vivez de la colère à cause de ça?
De la peine. Je passe par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Je vous dirais que c'est pas facile. C'est déjà pas facile d'avoir qu'on va mourir à 42 ans. C'est quand même jeune. Je ne sais pas combien de temps qu'il reste. Je peux pas le savoir d'avance, mais je sais que l'issue de tout ça, c'est la mort. C'est déjà pas facile à traverser. Traverser ça seul, sans suivi, c'est encore plus difficile. Oui, j'éprouve beaucoup de colère contre la situation actuelle. T'sais, je comprends que la COVID, c'est gros, c'est important, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui sont malades puis qui sont laissés seuls à eux-mêmes, qui attendent des résultats de tests puis tout. Je trouve ça vraiment dramatique comme situation, honnêtement.
Je vous comprends.
Je comprends pas comment je peux avoir accès pour avoir une injection de cortisone à l'épaule, un rendez-vous en clinique externe pour d'autres choses, mais que j'arrive pas à avoir un rendez-vous entre les externes pour voir mon oncologue ou pour avoir un bon suivi. Je trouve ça vraiment pénible.
Roxane, je vous comprends. C'est dramatique, là. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot.
On a un bon système de santé, mais honnêtement, en ce moment, c'est très défaillant, je trouve. Tu sais, je me dis, on a des solutions aussi, quand même. On a des tests rapides aussi qui dorment, qui ne servent pas à rien. Pourquoi ils ne s'en servent pas? Pour qu'on puisse avoir des rendez-vous en oncologie. Ils nous testent avant d'arriver dans la salle. Il y a des solutions. Il y a sûrement une solution quelque part pour que les gens ne puissent pas vivre dans autant de stress, autant d'incertitudes. C'est quelque chose.
Bon courage, Roxane,
pour la suite des choses.
On va, je vais penser à vous. Je vais penser à vous puis à vos enfants. Merci beaucoup.
Merci. Merci à vous.
OK. Bye-bye. Là, on va se tourner vers le docteur Martin Champagne, donc président de l'Association des hématologues et oncologues du Québec. Bonjour, docteur Champagne.
Bonjour.
Des Roxane Lavoie, il y en a beaucoup au Québec ces temps-ci, là.
Malheureusement, la COVID a fait que ça a chamboulé effectivement tout le système de santé. Et on a donné une priorité, parce que évidemment le feu était dans la demeure, là, une priorité aux patients qui étaient atteints de la COVID. Mais il y a des patients qui se trouvent malheureusement écopés. Vous faisiez référence à l'article de la presse. J'ai dit qu'on vivait à crédit présentement parce qu'on sait qu'il y a un prix à payer pour tout ça. Les retards de diagnostic font que les maladies sont plus avancées, à des stades plus avancés, ce qui compromet les chances de guérison ou de succès des traitements, ce qui alourdit beaucoup aussi le fardeau pour les patients parce que les traitements sont plus lourds quand on se présente avec une maladie avancée. Alors, c'est une catastrophe annoncée parce qu'on sait que le prix à payer va l'être pour des années et des années.
Oui, bien c'est ça. Là. Il y a, je ne sais pas lequel, là, parce qu'il y a plusieurs médecins qui sont cités dans l'article, mais il y en a un qui dit qu'on pourrait vivre avec les contre-coups de la COVID pendant 10 ans.
Oui. En fait, ça vient d'une étude d'épidémiologiste anglais qui a évalué...
Ah ben c'est vous qui dites oui. ça, excusez-moi, oui. c'est vous qui dites oui. ça, mortalité accrue de 10% par année pendant les 10 prochaines années.
Alors, ça vient d'une étude donc d'épidémiologiste qui a évalué durant la première phase donc les délais de diagnostic. Ce qu'on sait, c'est que un délai va avoir des conséquences. Alors, je vais prendre l'exemple, par exemple, du programme de dépistage du cancer du côlon. Alors, le cancer du côlon, on a mis le programme à l'arrêt durant la première phase de la COVID, ce qui fait que les tests de dépistage de sang dans les selles ont diminué de 70 % au Québec. Là. C'est ça, c'est l'amorce donc du protocole, si vous voulez. Si on trouve du sang dans vos selles, à ce moment-là, on sait que il faut avoir un indice de suspicion qu'il puisse y avoir soit une lésion précancéreuse, qu'on appelle un polype, ou une lésion cancéreuse qui est probablement précoce parce que vous n'avez pas d'autres symptômes. Alors, à ce moment-là, on fait une coloscopie, on évalue donc l'intérieur de l'intestin. S'il y a une tumeur, on se trouve à faire une biopsie ou on l'enlève. Alors, ce qu'on sait, c'est que le nombre de tests de dépistage a diminué de 70 % durant la première phase. Ce qui a fait qu'il y a un nombre incalculable de coloscopies qui sont en attente présentement. Et ces cancers-là ou ces lésions précancéreuses-là vont progresser. La lésion précancéreuse, le polype, peut évoluer sur des mois, quelques années, à devenir une vraie lésion cancéreuse. Le cancer peut devenir plus invasif, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est localisée en surface de l'intestin, qui pourrait être traité par chirurgie seule. Vous pouvez avoir une dissémination vers des ganglions à proximité, ce qui fait qu'à la chirurgie, on ajoute la chimiothérapie, ou même avoir des métastases à distance, ce qui fait que votre probabilité de guérison est beaucoup moindre. Donc, les patients se présentent... Alors, on sait que durant la première phase de première vague, on a diminué de 25 % le nombre de biopsies faites au Québec qui résultaient en résultats de cancer par rapport aux années précédentes. Donc, ce qui fait qu'il y a des milliers de gens qui ne savent pas qu'ils ont le cancer ou qui n'ont pas été diagnostiqués. Donc, cette maladie-là progresse. Ils vont se présenter avec une maladie plus avancée, donc traitement plus lourd, et leurs chances de guérison sont moindres. Mais ce risque de rechute-là va peut-être se manifester dans un an ou dans trois ans ou dans cinq ans. C'est pour ça qu'on s'attend à ce que le prix à payer soit là pendant des années.
Là, je ne veux pas faire mon gérant d'estrade, là, Dr Champagne, là, mais quand on vous écoute, quand on a fini de lire le papier, on n'a pas le choix, là, si on est de bonne foi, là, de se poser la question, est-ce qu'il est possible, avec le recul, là, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, peut-être dans cinq ans, mettons, dans cinq à dix ans, là, quand on va regarder ce qui s'est passé, est-ce qu'il est possible qu'on se dise qu'il y a eu davantage de décès liés au délestage que de décès causés par la COVID?
Bien, déjà, les données statistiques montrent que durant la première vague de la COVID, il y a eu un excès de mortalité pour plusieurs maladies. On regarde le taux de décès. Donc, la COVID, il y a un pic de décès par la COVID. Mais il y a aussi une augmentation des décès qu'on peut voir par maladie cardiovasculaire, par exemple, parce que les patients n'ont pas accès ou ont peur de consulter ou en fait ce genre de situation-là. Donc, de par le monde, on voit qu'il y a un excès de mortalité par rapport à ce qui est attendu. Alors, oui, on peut être excessivement inquiet de ça, puis effectivement, ça va être dans quelques années qu'on va pouvoir saisir l'ampleur du phénomène. Mais on voit malheureusement des patients qui ont des symptômes qui évoluent depuis déjà plusieurs mois, qui se présentent à nous avec parce qu'ils n'ont pas eu le choix de venir consulter à l'urgence ou avec des maladies trop avancées. Alors, c'est la réalité sur le terrain.
C'est ce que vous appelez, puis honnêtement, ça m'a frappé là, quand j'ai vu ces mots, la dette santé. Vous avez appelé ça la dette santé, puis j'ai fait comme « wow ». Vous avez résumé, je ne sais pas si c'est de vous, là, mais le fait qu'on va traîner sur plusieurs années les contre-coups, les conséquences de cette crise, de cette pandémie et des choix qu'on a faits. Puis encore une fois, là, je le dis, là, moi, là, je suis pas en train de dire que la stratégie qui a été choisie est pas la bonne. Là, je me trouverais franchement un peu prétentieux de faire ça. Je pense qu'on a des dirigeants qui font au mieux et un peu partout dans le monde, ils ont essentiellement tous choisi la même stratégie, c'est-à-dire de sauver le maximum de vies chez les personnes qui sont atteintes de la COVID, puis ils ont mis tout le service de santé au service de cet objectif-là. Mais on s'aperçoit de plus en plus, on réalise de plus en plus qu'il y a des conséquences très lourdes qui viennent avec ce choix-là.
Oui, puis il faut en appeler à notre responsabilité sociale à tous, que à chaque fois qu'on fait un compromis et qu'on ose par rapport à la COVID, ben ce qu'on fait, c'est qu'on se tire dans le pied ou on tire dans le pied de notre père, de notre mère, de notre frère, de notre sœur. Donc, on compromet les chances de maladies autres que la COVID. On leur donne un risque accru de COVID, mais on leur donne un risque accru de d'autres choses aussi.
Docteur Martin Champagne est le président de l'Association des hématologues et oncologues du Québec. Merci, docteur. Bonne chance.
Bonjour. Bonne journée.
Après la pause, je vais prendre vos appels. Je vais vous demander, est-ce que vous faites partie de ceux, de celles qui vivaient avec l'angoisse de ne pas être opéré ou de ne pas être traité à temps? Vous pouvez m'appeler au 790-9850 ou encore 98985 par texto, Drainville, en commercial, 985FM.ca par courriel. Alors, on va parler à Suzanne dans un instant, mais Luc, d'abord, réaction.
Ben, ma réaction, c'est que on n'arrivera sans doute jamais à déterminer combien de personnes ont perdu la vie à cause des circonstances créées par la pandémie, perdu la vie autre qu'à cause de la COVID. Je pense, par exemple, aux gens qui ont le cancer. C'est bien connu. Je veux dire, comme toi, tu sais, je suis pas un expert, là, je veux pas jouer au gérant d'estrade, là. Mais je suis pas un oncologue, mais quelqu'un qui a le cancer, plus c'est traité rapidement, plus les chances de s'en sortir sont bonnes. Alors j'espère que, tu sais, j'ai tellement hâte que ça finisse tout ça. Je connais des gens moi, qui ont souffert de ça et qui, je connais quelqu'un qui s'en est sorti là, parce que c'était juste le début de la pandémie, puis le délestage n'était pas vraiment commencé. Mais y a-t-il une solution? J'en connais pas.
Merci, Luc. On va aller à des appels parce qu'on en a beaucoup et ils sont très éloquents, apparemment. Suzanne, d'abord, bonjour.
Oui, bonjour.
Je vous écoute.
J'étais aussi là, du reportage de la presse. Donc, c'est ça. Moi, j'ai eu donc un premier diagnostic de cancer le 2 mars dernier, juste avant, évidemment, là, la fermeture de tous les. le shutdown du Québec, là, le 13 mars. J'écoutais Mme Lavoie. Moi, j'ai eu, dans ma malchance, quand même la chance d'avoir des suivi, souvent téléphonique, évidemment, mais quand même en personne. J'ai eu la chance d'avoir mes traitements, mais la chimiothérapie, les chirurgies, des choses comme ça, mais évidemment, comme on en parle dans l'article, par exemple, la mastectomie, j'ai eu un cancer du sein et un cancer du poumon, et donc pour le sein, je devais avoir une mastectomie complète. Mais moi, j'aurais aimé faire enlever les deux seins parce que, comme j'ai un cancer hormonodépendant, les risques de récidive sont plus élevés.
Oui.
Mais là, évidemment, c'était pas possible et on peut comprendre, bon, avec une chirurgie viennent les possibilités d'infection, etc., des choses comme ça. Donc, en tant que COVID, ils minimisent les interventions non essentielles, ce qu'on comprend très bien.
Donc, l'ablation du sein qui n'était pas atteint par le cancer, qui n'est pas atteint par le cancer, n'était pas considéré comme une chirurgie essentielle?
Non, parce qu'évidemment, il était sain, là. Donc, c'est tout à fait. Je comprends les contraintes actuelles. Je trouve ça dommage.
Oui.
Mais je les comprends. Donc, effectivement, donc c'est considéré comme non essentiel. Par exemple, les chirurgies, évidemment, on n'est pas accompagné. Des trucs comme ça, on ne peut pas être accompagné. Les traitements, on ne peut pas être accompagné non plus parce qu'évidemment, les risques sont trop élevés. Ça a été difficile comme personne parce qu'évidemment, tu vis quelque chose d'avoir un cancer, voire deux, c'est assez terrible. En plus, avec le chapeau COVID puis toutes les contraintes liées à tout ça, c'est difficile. Mais en même temps, moi, je suis extrêmement reconnaissante du milieu médical qui a, avec toutes les contraintes, avec tous les éléments avec lesquels ils doivent jongler, je trouve que le travail est quand même exceptionnel. Là,
d'accord. Bonne chance, Suzanne, pour la suite. Merci beaucoup.
Ben merci, ça fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. J'ai un texto ici. Bonjour, Bernard. J'ai un ami. Sa femme a eu un diagnostic de cancer du sein à la mi-décembre. Ça fait deux fois que son opération est reportée. Elle fait de la chimiothérapie en attendant qu'une place se libère, mais l'anxiété monte dans la famille. On s'en va rejoindre Gervais. Bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
On vous écoute.
C'est que pour vous parler de façon avec émotion peut-être. Mm-hmm. J'aimerais mentionner à tous vos auditeurs que les délestages des salles d'opératoire m'affectent à un très haut niveau. Depuis 4-5 ans, je suis suivi pour un anévrisme à l'aorte abdominale.
Mm-hmm.
L'été dernier, j'ai dû me battre avec plusieurs appels aux médecins et différents centres hospitaliers pour finir par passer des examens. Et j'ai appris en décembre dernier, le 11 décembre, que j'étais sur une liste prioritaire d'opérations parce que mon anévrisme est rendu à pratiquement 6 cm de dilatation par presque 9 cm de long. Ça veut dire que, vis-à-vis du nombril, l'aorte est tellement distendue qu'elle peut fendre à tout moment et à l'intérieur de 8-10 minutes, j'en suis mort par hémorragie interne. En décembre, le spécialiste me dit « Je t'opère en priorité d'ici la fin du mois de décembre ». Les premiers examens ont été passés. J'ai appris par quelqu'un du personnel que j'ai été délesté d'opérations pour décembre. En janvier, j'ai passé deux autres examens et on me dit qu'habituellement, après le dernier examen, un test de COVID, une à deux semaines après, je devrais être opéré probablement demain. J'ai été redélesté une autre fois. C'est-à-dire que présentement, je fais le funambule sur un fil de fer. C'est-à-dire que dans ma condition, comme je vous mentionnais, s'il y a rupture, comme un médecin m'a déjà dit, 8-10 minutes, je suis mort. Je n'irai pas peut-être. Il y a d'autres personnes qui ont différents problèmes de santé, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas évident à vivre.
Je vous comprends. Je vous comprends.
Et lorsque j'entends, désolé de vous interrompre, lorsque j'entends tous les beaux prix Nobel qui appellent, qui disent pour leur santé mentale, ils ont besoin de deux petites maudites semaines dans le sud, puis après ça, ils vont revenir, puis qu'ils vont attraper des cochonneries, puis qu'ils vont prendre des places, que le personnel hospitalier va être obligé de les soigner, tandis que moi, je suis assis, puis j'attends. Il me reste une chose à faire, puis je suis en décision de, je fais-tu des préarrangements ou pas, d'après vous?
Gervais, je sais pas quoi vous dire, mais je pense qu'il faut rester. Je pense qu'il faut. Non, il faut garder l'espoir, Gervais. Il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir. Laissez faire les préarrangements. Gardez l'espoir. Gardez votre énergie. Préparez-vous. À un moment donné, ils vont vous appeler. Espérons que ce sera bientôt. Et puis, commencez pas à les pensées négatives, là, gardez ça loin de vous, là. Puis vous avez une bonne voix, là. Moi, je vous connais pas, là. Vous avez une bonne voix, vous avez l'air d'un gars qui est décidé, qui je pense que vous voulez vivre, hein. Je pense que l'amour de la vie vous habite encore. Fait que je pense, non, on reste optimiste, puis ça va finir par arriver. Puis j'aimerais ça, Gervais, rester en ligne. J'aimerais ça, Maryse va vous reprendre. J'aimerais ça prendre votre numéro de téléphone, puis quand ça va débloquer, j'aimerais ça que vous m'appeliez, puis on pourrait en témoigner sur les ondes. Est-ce que ça vous convient?
Ça me convient parfaitement, et j'aimerais mentionner à tous les prix Nobel qui ont besoin absolument de leurs vacances dans le Sud, arrêtez, s'il vous plaît, de mettre de la pression sur nos services de santé, parce que la journée que la dite pandémie va être en fin pratique, il y a beaucoup de personnel qui vont dire, ça fait 10 mois, 11 mois, 12 mois, comme une de nos filles fait présentement, des 12 heures, des 16 heures, qui vont dire, hey, je peux-tu prendre 2 semaines de vacances, je peux-tu prendre 3 semaines de break? Il n'y aura pas plus de personnel dans l'immédiat d'une salle d'opération.
Merci d'avoir appelé, Gervais. Bon courage, OK? Bougez pas.
Merci.
Bougez pas. OK, moi, je suis tellement content qu'il ait appelé, là, parce que vous êtes nombreux à m'écrire précisément ce qu'il vient de dire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, rappeler à tous ceux et celles, là, qui nous mettent à mal par leur négligence, par leur non-respect, qui font en sorte que les cas se produisent, que les infections se promènent, puis à un moment donné, le système hospitalier qui est surchargé, avec les conséquences dont vient de parler Gervais, qui le vit personnellement. Caroline, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Mon nom, c'est Caroline. J'ai un cancer du sein. Qui est rendu maintenant aussi comme la première dame métastasée aux os. C'est sûr que moi, contrairement à elle, c'est sûr que quand que le COVID a commencé, j'étais déjà, moi, dans la roue. Je voyais mon oncologue régulièrement, je faisais mes prises de sang régulièrement, je faisais mes scans régulièrement. Puis la seule chose que je remarque maintenant depuis le COVID, c'est sûr que je vois plus l'oncologue, mais on a des contacts téléphoniques régulièrement.
Oui.
Si j'ai une problématique, je l'appelle, elle va agir. Fait que je pense que dans tout ça, c'est aux gens aussi d'être plus proactifs, puis de s'occuper un peu plus peut-être de leur santé, puis de, comment je peux dire ça, de pas attendre. S'il y a une problématique, on doit appeler, on doit essayer de parler à notre oncologue, on doit dire ça va pas bien, j'ai besoin de prise de sang. Fait que je pense aussi qu'à travers tout ça, c'est ça qui est important.
Il faut être très proactif, dites-vous. Il faut être très proactif.
Oui, c'est en plein ça.
Vous avez raison, Caroline. Bonne chance. Bonne chance.
Oui, merci beaucoup.
Salut, bonjour. Salut, ça va bien aller, on l'espère. Bon courage. J'ai quelqu'un qui m'écrit, il n'en revient pas, là. Voyons donc, à mon hôpital, l'oncologie est le seul domaine qui n'a pas été arrêté. Donc, il y a des hôpitaux où l'oncologie se maintient, les services en oncologie se maintiennent. La preuve, j'ai ce courriel de Lisanne qui me dit, pour ma part, j'ai eu un abcès au sein fin novembre. J'ai été merveilleusement prise en charge par le système de santé. J'ai vu mon médecin 5 fois, vu le chirurgien 2 fois, passé 2 échographies et 1 mammographie. Tout ça en l'espace d'un mois et demi. J'habite dans les Basses-Laurentides, dit-elle. Donc, j'ai l'impression que ça dépend des établissements. Il y a des établissements où c'est plus facile que d'autres. Puis je porte pas de jugement encore une fois. Je peux comprendre que dans certains établissements spécialisés désignés COVID, c'est sûr que c'est... Je présume que c'est plus difficile dans certains cas parce que les ressources sont drainées justement par la lutte à la COVID. OK. Bon. Là, ça fait le tour. Hein. Je pense qu'on a une bonne idée. On n'est pas bien plus avancé. Je suis d'accord avec vous. Mais au moins, on a une meilleure compréhension de ce qui se passe. Puis une fois qu'on comprend, bien, on peut réfléchir aux solutions puis voir comment on peut aider, voir comment on peut améliorer la situation. On est une méchante gang, hein, à essayer de trouver des moyens. Tout le système de santé, je pense, se questionne là-dessus présentement. Puis c'est ce qui est difficile, c'est que tu te questionnes là-dessus puis en même temps, tu es obligé de te battre contre le virus. On s'en va à la pause, au retour, la guerre des vaccins.